Wow. Merci beaucoup à l'équipe de louange qui, ce matin, nous a conduits dans ce temps de louange hein, avec ce jusque Zakan qui m'a percuté. Oui, c'est important de rappeler que parfois le cœur est lourd, parfois il est coûteux d'offrir sa louange. Jusque à quand? Ça m'a rappelé le cri d'Habacuc, le prophète Habacuc. Bouleversé par ce que le Seigneur lui donne de voir arriver, une situation douloureuse, difficile. Comment le Seigneur va-t-il se servir de ceux qui sont pires, les Chaldéens, pour corriger ceux qui ont désobéi? Pourquoi ce mal, cette brutalité, cette violence, jusque à quand? Le Seigneur lui dit, écris la vision. Cette parole est certaine. Ça va arriver. Mais je peux faire une promesse. Le juste vivra par la foi. Amen. Je voudrais juste... Ce n'est pas le sujet de la prédication exactement de ce matin. Et là, je me laisse déplacer par ce que mon frère a dit en ouvrant cette louange. Et dans des temps difficiles, quand nous sommes troublés, quand nous sommes chancelants, quand le doute s'empare de nous, revenons. Peut-être c'est le moment de revenir simplement à ce qui est essentiel. Et le Seigneur sait nous donner ce qui est essentiel. Et ce matin, quel que soit tes jusque à quand, tes pourquoi, peut-être que ça y est, tu as reçu l'essentiel déjà. Le juste vivra par la foi. Il ajoute, s'il se détourne, mon regard ne prend plein plaisir à lui. Point plaisir à lui. Est-ce que ce matin, nous voulons continuer de marcher au milieu d'un monde qui charrie beaucoup de souffrances? Non pas en comptant sur nos propres forces, non pas en posant nos regards simplement sur les événements de notre monde, non pas non plus dans le déni de la réalité, mais avancer parce que nos regards sont posés sur le Christ. Et que, alors que la barque de nos vies vogue au milieu des récifs d'un monde toujours plus dangereux, nous recevons ce matin cette ferme assurance qu'il est avec nous, là, au milieu de nous, et que la barque ne coulera pas. Ce matin, je voulais nous parler, et je veux nous parler, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est belle, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu, c'est pour moi comme un joyau précieux. Tout au long de la préparation, une image ne m'a pas quitté. Vous savez peut-être que certains l'ont vécu. Vous faites des vitrines à la recherche d'un bijou. Mais pas pour vous, pour l'autre, pour cette personne significative pour vous. Et quand vous avez trouvé, en fait, vous êtes attiré par l'écrin d'abord. Vous voyez avec quel soin le joaillier a présenté ce bijou. Et puis vous ressortez de la boutique avec cet écrin dans la main. Et là, vous n'avez qu'une seule hâte. L'offrir à l'être aimé. Vous n'avez qu'un seul désir, voir dans ses yeux les étincelles, la grâce, la gratitude. Vous l'ouvrez, cet écrin. En tout cas, l'autre l'ouvre. Et là quoi? Pardon? C'est le plus souvent ce qui arrive. Les yeux s'illuminent. Quel moment de grâce! Quel moment de grâce! Il arrive souvent qu'on ouvre l'écran et on se rend compte que zut, il n'y a pas le joyau. C'est l'angoisse de tous ceux qui un jour se sont mariés que les pages perdent leurs alliances. La promesse de l'écran était belle, mais le contenu n'y était pas. La grâce, pour les uns, est une bénédiction, une merveilleuse chose, mais pour d'autres, elle a l'air d'être une promesse vide et trompeuse. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de revenir sur cet enseignement fondamental à la lecture de l'Épître aux Éphésiens. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de Loïc qui nous a bien eu la semaine dernière. Il nous a fait lever, vous imaginez ? Il nous a dit, faites un bond en avant, on l'a fait. Il a dit, asseyez-vous. Il dit, bon voilà, c'est comme ça qu'on passe d'Éphésiens 1 à Éphésiens 3. Alors, faites un bond symboliquement en arrière, rembobinez, c'est comme ça qu'on passe d'Éphésiens 3 à Éphésiens 2. Revenons à Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupe l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisons ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en compassion, son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Normalement, à ce moment-là, toute l'assemblée s'écrie « Amen !» Amen. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Ah. Amen. Au moyen de la foi, ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut faire le fier, ne peut s'enorgueillir dans certaines versions. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté. Celle qu'il a préparée d'avance, afin que nous les pratiquions. Waouh ! Dans ce passage, l'apôtre Paul invite ses premiers lecteurs, lectrices aussi, bien entendu, non-juifs, aussi bien que juifs, à se rappeler ce qu'ils étaient autrefois sans le Christ et ce qu'ils sont maintenant au moment où il leur écrit en Jésus-Christ. Ce sont les versets 1 à 3. Le deuxième mouvement de sa pensée le pousse à souligner ensuite ce que Dieu, qui est riche en compassion, comme il écrit, a fait en eux. En Jésus-Christ. C'est le deuxième grand axe de la pensée de Paul, les versets 4 à 7. Et au regard de qui ils étaient, mais surtout de ce que Dieu a fait en eux et pour eux en Jésus-Christ, l'apôtre Paul affirme, c'est les versets 8 et suivants, ce qui est au cœur de son message ici, c'est par la grâce, il avait déjà dit au verset 5, mais il va enfoncer le clou. si on en doutait encore, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. C'est autour de cette affirmation fondamentale que je nous propose de méditer ce matin. J'aimerais d'abord nous amener à faire le constat, me semble facile, que la notion de grâce n'est pas propre au langage chrétien ou religieux. Dans son acception courante, suffit d'ouvrir nos dictionnaires. Le terme recouvre de nombreuses significations. La grâce évoque ce qui brille, ce qui réjouit, le charme de la beauté. Pensez à ce danseur ou cette danseuse étoile dont on dit qu'il danse avec grâce. La faveur, c'est-à-dire un don immérité, mais également la notion de bienveillance. Et notre langue française, l'avez-vous remarqué, est riche en expressions construites autour de la notion de grâce. C'est la séquence « à vous de jouer », une expression avec la notion de grâce. Trouver grâce devant quelqu'un. Faire grâce. Rendre grâce. Grâce à toi. On pourrait multiplier, faire quelque chose de bonne grâce. Nous connaissons ça en tant que bénévole, c'est-à-dire le faire bien volontiers. S'engager à titre gracieux, c'est-à-dire sans rémunération. S'attirer les bonnes grâces de quelqu'un. Ou encore, lui porter le coup de grâce. Parfois les deux sont liés. On s'attend tellement, on veut tellement s'attirer ces bonnes grâces qu'il ne nous voit pas et que ça n'arrive pas, qu'on lui porte le coup de grâce. C'est-à-dire on l'achève. J'espère pas. À moins que la situation ne soit tellement compliquée qu'on ne veuille remettre le cours des choses, comme on dit, à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que comme il lui plaira d'en disposer, sans intervention de notre part. C'est un peu d'ailleurs comme ça, sans stigmatisation aucune, que résonne au milieu de nos contemporains, qu'ils soient d'ailleurs religieux ou pas, le fameux Inch'Allah. C'est à la grâce de Dieu. Il disposera, on ne sait pas quand, comment, et puis si moi je peux m'y impliquer ou pas. Est-ce qu'il attend quelque chose de moi? On verra, t'inquiète pas mon frère, Inch'Allah. Et si l'issue est favorable, puisqu'on a dit à la grâce de Dieu, on pourra toujours dire, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Mais quand nos contemporains disent, grâce à Dieu, tout s'est bien passé, ils ne nous proposent pas leur profession de foi. Ils sont simplement en train de dire, par bonheur, par chance. Voyez que bien que le mot et la notion de grâce aient pénétré notre culture et notre langage en témoignent, nous ne mettons pas derrière ce mot la grâce les mêmes réalités. Et d'ailleurs, cette expression « grâce à Dieu » a donné lieu à un film récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque dans les affaires de la tourmente des procès et des victimes d'abus au sein de l'Église catholique, le cardinal Barbarin avait eu cette expression « grâce à Dieu, les faits sont prescrits ». Et dans sa bouche, « grâce à Dieu » voulait dire « par chance, par bonheur ». Alors, si vous voulez retrouver le film qui l'a inspiré malgré lui, le titre, c'est précisément « grâce à Dieu ». Qui nous montre le parcours compliqué, douloureux au sein de cette Église des victimes des abus des prêtres ou des évêques. Chez Paul, puisque nous lisons Paul ce matin, dans ce passage, la notion de grâce fait surtout référence à la démarche de Dieu qui se tourne personnellement vers les humains. Et ce matin, c'est un peu ce que je voudrais nous faire à nouveau réaliser et toucher du doigt. Dieu prend l'initiative ce matin de se tourner tout à nouveau vers toi, vers moi, vers nous, pour nous faire grâce. Dans la traduction de la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque, de l'Ancien Testament, les plusieurs mots ont souvent été traduits par grâce, sont des mots hébreux comme chesed, a été traduit par charis dans certaines versions. Rechem, qui évoque les entrailles profondes, a été traduit par charis. C'est pour ça que ici Paul peut parler de Dieu qui est riche en compassion. C'est un juif, ne l'oublions pas. Il a les notions hébraïques de la bienveillance, de la chesed de Dieu, de la rechem de Dieu, des entrailles de Dieu. Pratiquement des entrailles comme une mère qui sent ses entrailles profondes mobilisées de compassion. La grâce de Dieu n'est pas un concept subjectif au contour vague comme on vient de le voir dans notre langage, mais c'est un concept relationnel parce que ce Dieu veut intentionnellement entrer en relation avec nous, se tourner vers nous et nous faire grâce. Non pas nous donner le coup de grâce. Je voudrais articuler mon propos autour de trois affirmations qui me semblent découlent de ce que l'apôtre Paul dit ici. Ce n'est pas la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Premièrement, la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment qu'on puisse revoir ces basiques, mais ne nous excusons pas de revenir sur ce qui est fondamental. La grâce de Dieu est la source unique. J'insiste vraiment sur unique de notre salut. La grâce de Dieu, deuxièmement, nous allons le voir, appelle une réponse humaine qui est la réponse de la foi. Et enfin, la grâce de Dieu dynamise, vitalise notre foi pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Trois affirmations que j'aimerais étayer. D'abord, la grâce de Dieu comme source unique de notre salut. Le salut, bien-aimé, est le décret de la grâce de Dieu, du Dieu d'amour, qui déclare juste le pécheur sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Alors les destinataires de la lettre de Paul, parce que c'est plus facile d'expliquer le salut par l'exemple que Paul lui-même donne, c'est ce qu'il fait, plutôt que par une définition très systématique, très dogmatique. Comment est-ce que Dieu a manifesté sa grâce aux chrétiens avant nous? L'apôtre Paul voudrait que les lecteurs, les lectrices à qui il s'adresse, réalise combien la grâce de Dieu a changé profondément qui ils étaient, leur vie. Et voilà la raison pour laquelle Paul va d'abord commencer dans les trois premiers versets à rappeler quelle était leur condition. C'est la slide suivante. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupe l'air et cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Autrefois, il fut un temps où sans le Christ, vous, ici dans le contexte, ce sont les non-juifs, puisque Paul va utiliser deux pronoms pluriels, vous et nous. Vous, non-juifs, c'est-à-dire nous aujourd'hui qui le lisons aussi, pour la plupart d'entre nous, nous étions morts à cause de nos fautes. Il s'agit bien entendu de l'expérience de la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Nous sommes, jusqu'à ce que le Christ intervienne dans notre vie, nous sommes comparables à des cadavres. Ils reviennent de loin, ils reviennent des cimetières. C'est comme si Paul leur disait, regardez qui vous a fait sortir du cimetière. Et si ce matin, vous n'avez jamais pris la décision de considérer Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si Paul était en train de vous dire, pourquoi vous continuez de vivre dans un cimetière? Vous étiez mort à cause de la rébellion du péché. Le salaire du péché, quand Paul enseigne les Romains au chapitre 3, c'est la mort, la rupture d'avec Dieu. Et le mort, le cadavre, n'a aucune puissance, aucune capacité de changer son sort. De même, nous n'avons pas par nous-mêmes la solution. En réalité, l'athéisme, pour Paul, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, c'est pire. C'est une mort. Et celui qui est mort, on ne donne pas de remède. Celui qui est mort a besoin de résurrection. Et c'est cette œuvre de résurrection dont il va nous parler après. Ils étaient morts, vous étiez morts. Ils étaient configurés, modélés par le monde. C'est-à-dire que leur représentation de l'univers, leur représentation du monde, leur représentation de la société n'était que conformisme. Parfois, on croit que les chrétiens sont conformistes. Mais en fait, les chrétiens rament depuis toujours à contre-courant. Ou en tout cas sont appelés à ramer à contre-courant. En Romains aussi, au chapitre 12, l'apôtre Paul dira « Ne vous laissez pas modeler, façonner, configurer à la mentalité du monde. » Le monde dans la pensée de Paul et dans la pensée des auteurs du Nouveau Testament et même bibliquement parlant, c'est ce système qui veut faire société à l'exclusion de Dieu. C'est ce système qui veut ériger l'homme, la raison humaine, l'autonomie humaine comme norme absolue et mesure de toute chose. Se rébellant donc contre Dieu. Et l'apôtre Paul dit à ses premiers lecteurs, voilà comment vous pensiez autrefois. Et il connaît très bien celui qui était derrière cette situation. Il le pointe avec des expressions qui, pour nous, sont un peu, excusez-moi, mais un peu, j'ai envie de dire presque mystérieuses. Le prince de la puissance de l'air. En fait, pour faire court, l'apôtre Paul montre que derrière les comportements d'une société qui se coupe de son créateur, qui se révolte, qui se rebelle, qui le rejette, il y a une puissance démoniaque à l'œuvre. Et il dit, c'est le prince du monde, le prince du monde, le prince qui agit dans la puissance de l'air, l'air du temps. Mais ça, c'est un jeu de mots de ma part. Mais c'est Satan. Vous étiez séparés par le père du mensonge, le diviseur, Satan. Bref, le tableau dressé est aux antipodes de la promesse. La grâce, c'est la beauté, c'est l'émerveillement. Mais il n'en était pas là. Et on pourrait croire que l'apôtre Paul, avec ce « vous » pointe du doigt ses lecteurs et leur parle depuis un piédestal en disant « nous, notre situation était autre et elle était meilleure ». Non. Au verset 3, l'apôtre utilise notre pronom « nous tous, nous étions aussi comme eux ». Ils étaient comme eux, c'est-à-dire morts comme eux. Ils étaient comme eux, captifs de notre nature propre, c'est-à-dire notre nature pécheresse. Ils étaient comme eux, destinés à subir la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas contempler la beauté de la grâce de Dieu si nous ne réalisons pas dans quel boue, dans quel bourbier, dans quel, excusez-moi, merdier, fumier, fange, Dieu nous a retirés. Et en fait, ce qui nous empêche peut-être de réaliser à quel point ça change tout, c'est peut-être que nous avons encore une trop haute opinion de nous-mêmes. Peut-être que nous avons eu une très bonne éducation et que nous considérons que nous n'étions pas si mal que ça. C'est vrai que Dieu n'appelle pas simplement à lui les gens qui ont fait les 400 coups, les gens qui ont tué, les gens qui étaient drogués, les gens qui étaient, je ne sais pas, parce qu'on nous raconte souvent dans nos églises ce type de parcours. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par ça parce que vous êtes peut-être issu d'une famille qui vous a transmis, et c'est une grâce aussi, une éducation chrétienne, des valeurs, ou alors même si c'est dans un milieu qui n'était pas chrétien, des valeurs, j'ai envie de dire, humanistes, etc., etc. Mais ça ne change rien du point de vue de Dieu. Vous n'avez rien, nous n'avons rien à faire valoir. La grâce échappe à l'ordre de la nature. Il n'y a pas de grâce naturelle en l'homme. Et c'est vrai que ce message peut être taxé de pessimiste, d'un pessimisme anthropologique, une vision pessimiste, désespérante de l'être humain. Mais je pense au contraire que la Bible pose un regard réaliste sur la nature humaine. La grâce, c'est que Dieu soit venu jusque dans notre bourbier en Jésus-Christ, nous sortir, nous laver, nous purifier, nous transformer en joyaux. Voilà la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul peut dire, en Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour moi, cette affirmation implique au moins deux conséquences. Premièrement, notre salut n'a été motivé par rien d'autre que l'amour de Dieu envers nous. On court toujours le risque de s'auto-persuader insidieusement que si finalement Dieu nous a aimés, c'est parce que dans sa prescience, il savait que notre cœur allait être meilleur que celui du voisin. Rien à voir. Fausse piste. Il n'a pas regardé à nous d'abord. Il a regardé en lui. Parce que la grâce est l'expression de son être. Dieu est amour. Or, la façon dont il nous manifeste son amour, d'après Paul, de la manière la plus retentissante et merveilleuse, c'est dans le fait que quand nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. C'est la deuxième conséquence. Dieu n'a pas attendu que nous ayons tout réglé. Loïc nous l'a rappelé bien la semaine dernière et David nous l'avait rappelé encore il y a quelques semaines derrière, en arrière. Il n'y a pas que McDo qui nous dit « Venez tel que vous êtes ». Et après, vous allez sortir moins bien que vous êtes quand vous entrez. Mais Dieu nous dit vraiment « Venez tel que vous êtes ». Et ça, c'est vrai. Mais ensuite, la nourriture qu'il nous donne ne nous rend pas pire, mais nous rend meilleur. Ça, c'est une sacrée différence avec McDo quand même. Pensez-y la prochaine fois que vous dites « Venez comme vous êtes ». En sortant, dites-vous « Est-ce que je suis sorti comme je suis entré ?» Dieu nous dit « Venez vraiment tel que vous êtes. Venez à la source de l'amour. Venez à la source de la grâce. » Mais Dieu ne va pas nous laisser tels que nous sommes venus à lui. Son projet, c'est de faire de nous ses joyaux. Les plus beaux diadèmes. Nous sommes son poème le plus beau. Nous sommes son œuvre. C'est comme ça que la section se termine au verset 10. Il va faire de nous une nouvelle création. C'est un projet merveilleux. Charles Spurgeon, qui a été qualifié du prince des prédicateurs au 19e siècle, a écrit tout un livre qui a inspiré d'ailleurs le titre de ma prédication, sauf que lui dit « Tout par grâce ». Et dans ce livre magnifique que je vous recommande, puisqu'il a été réédité, où il parle de la grâce de Dieu d'une si belle manière, il a cette citation. « C'est parce que Dieu est un Dieu de grâce que les pécheurs peuvent être pardonnés, transformés, purifiés et sauvés. Ce n'est pas parce qu'il y a ou qu'il y aura jamais quelque chose de bon en eux qu'ils sont sauvés, mais c'est à cause de l'amour sans borne, de la bonté, de la compassion, de la miséricorde et de la grâce infinie de Dieu. Viens tel que tu es. Ne tarde plus. Viens tel que tu es. Viens avec ton doute. Viens avec ton caractère. Viens. Comment on dit, mon frère Norbert, reboussier que tu es, c'est ça? C'est reboussier? Ré. Oh là là, après les costières, c'est ré. Reboussier. Même les reboussiers, venez. Dieu fait couler sa grâce d'amour comme un fleuve intarissable. La plénitude de la grâce de Dieu se visibilise, se manifeste dans le don du Fils et dans son œuvre de salut, dont sont au bénéfice juifs et non-juifs. C'est le sola gratia. Vous savez que dans la réforme du XVIe siècle, depuis les pères réformateurs, Luther, Calvin et bien d'autres qu'on pourrait citer, le protestantisme dans sa diversité se reconnaît quand même autour d'un certain nombre d'affirmations que nous partageons, six sola ou cinq,
sola scriptura, l'écriture seule, comme norme en matière de foi, de vie. Mais ici, le sola gratia, c'est cette affirmation que nous sommes sauvés par grâce seule. Martin Luther, le moine allemand, était professeur de théologie. Il avait une image d'un Dieu, j'ai envie de dire, tellement en colère, d'un Dieu saint, juste, mais alors dont la justice ne servait qu'à accabler et à condamner l'être humain. Et il a découvert, en préparant son cours en tant que théologien, en travaillant dans le texte original de l'apôtre Paul, en son épître aux Romains, il a découvert ou redécouvert la notion de la justification. C'est-à-dire que cette idée que la justice de Dieu, c'est la justice que Dieu met à notre compte, nous impute, et que cette justice-là qui vient de Dieu est complètement gratuite parce que Dieu, par un acte juridique, sur la base de la mort et de la résurrection du Christ, pour le pardon de nos péchés, nous déclare, nous pécheurs, qui ne nous voit plus comme pécheurs, mais il nous voit comme justes en Jésus-Christ. Amen. C'est extraordinaire. Et ça l'a libéré de son angoisse. Une période où la mort était partout et où la seule prédication qu'on avait, c'était de dire qu'on pouvait échapper à cela en achetant des indulgences. Et voilà pourquoi la conséquence de sa compréhension de la grâce l'a amené à s'insurger contre la vente des indulgences, ce système qui finalement donnait une sorte de certificat d'attestation au pénitent, c'est-à-dire au pécheur, que son péché lui est pardonné. Il fallait avoir acheté encore un document. Et les moines, dans leur zèle, disaient, les prédicateurs qui étaient envoyés par Rome pour lever les fonds, pour construire la basilique de Rome, disaient qu'aussitôt que la pièce d'argent tombe dans le tronc, eh bien, une âme est sauvée. Et Martin Luther dit non, ce n'est plus possible de dire ça. La grâce de Dieu n'est pas une marchandise. La grâce de Dieu ne se marchande pas, la grâce de Dieu ne se paye pas. En tout cas, pas avec cet argent-là. On est sauvé gratuitement. Dieu nous déclare juste. Et cette grâce de Dieu appelle une réponse de notre cœur. Cette réponse, c'est la réponse de la foi. Au verset 5, Paul a affirmé, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et au verset 8, il enfonce le clou et ajoute, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La source du salut se trouve entière dans la grâce de Dieu. Celle-ci, fit la métaphore, j'ai envie de dire, aquatique ou marine, celle-ci coule de l'amour de Dieu comme un torrent d'amour. Vous savez, il y a un cantique, torrent d'amour et de grâce. Merveilleux cantique. Telle est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Et la foi peut être décrite comme un canal par lequel ce fleuve d'amour abondant et intarissable de la grâce de Dieu passe ou veut passer. La foi est, pensez au pont du Gard, même si ce n'est plus trop d'actualité, comme un aqueduc qui va transporter l'eau depuis sa source et organiser son alimentation pour que ça arrive là où l'eau doit arriver. À quoi sert une maison rattachée à un forage ou à un réseau d'eau si jamais à l'intérieur, quand on a besoin d'eau, elle est disponible? La foi, c'est cette main qui s'approprie ce que le Christ a fait pour nous. La foi se saisit de la réalité et de la vérité de la grâce. Et la foi dont Paul parle n'est pas seulement une expérience subjective. Ce n'est même pas d'abord une expérience subjective. Il faut que nous nous souvenions que la foi biblique est objective, c'est-à-dire qu'elle a un objet concret. Et cet objet, c'est une personne. C'est Jésus des évangiles. C'est Jésus de l'histoire, Jésus le Juif, né à Bethléem, mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, ressuscité pour nous faire vivre avec lui, élevé à la droite de Dieu le Père, et l'Église proclame, il est Seigneur, il règne sur toute la création. Voilà la foi dont Paul nous parle, voilà le contenu objectif de la foi. Et la réponse à ce contenu objectif de la foi est l'adhésion de la confiance, de notre confiance. Quand nous disons « Amen », nous disons « Oui, c'est vrai. Oui, c'est du solide. Oui, c'est ce que Dieu a fait pour moi. » Or, il est évident qu'une telle foi, elle aussi, puise sa source dans la grâce. D'une part, dans le témoignage des Écritures saintes, puisque la foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole de Dieu, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Quand j'ai mal à ma foi, quand je ne sais plus où j'en suis, souvent ce n'est qu'un symptôme du fait que j'ai quitté le terrain de la parole du Christ. Je dois revenir à cette nourriture de base, à l'évangile de Jésus-Christ. D'autre part, dans le témoignage aussi du Saint-Esprit, parce que l'adhésion de la foi est l'œuvre de ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur. Puisque la Bible nous dit ailleurs que c'est l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, la foi subjective, ce n'est pas un sentiment. Je sens que Dieu m'aime, je sens que je peux l'aimer, je sens que je peux lui faire confiance. C'est plus que ça. C'est est-ce que je crois, crois-tu qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu te rencontrer, nous rencontrer. Crois-tu en ce Jésus de l'histoire, mort et ressuscité pour ton salut? Je le crois ne veut pas dire je comprends tout. Ça veut dire je fais confiance. Et les choses vont s'éclairer au fur et à mesure que nous avancions. Ici, je dois pointer un risque qui nous guette dans nos églises évangéliques où, juste, à juste titre, nous insistons beaucoup sur la foi, sur l'expérience personnelle. Et parfois, il m'a été donné de constater dans les crises spirituelles d'un certain nombre de chrétiens, en fait, que la crise venait d'une mauvaise compréhension de la grâce et de la foi. Ils avaient compris et accepté la grâce de Dieu comme un don immérité, mais ils avaient investi leur foi comme leur part à eux. Finalement, la foi était devenue leur mérite. J'ai répondu, j'ai accepté. Dieu a commencé et c'est à moi maintenant de le poursuivre à la force de mon poignet, c'est-à-dire de faire ma piété, de faire mon salut. C'est un piège qui guette constamment l'Église bien-aimée. Alors, on comprend bien ce qu'il y a derrière. Beaucoup investissent la foi comme ceci parce que d'une part, ils ne veulent pas qu'on fasse croire aux chrétiens qu'ils sont des marionnettes que Dieu agite et nous ne le sommes pas. Dieu ne nous traite pas comme des marionnettes ou des pantins. Il veut l'adhésion sincère de notre cœur. Mais d'autre part, ils tiennent à maintenir l'autonomie de la décision humaine. J'ai choisi, j'ai choisi. La foi ne remet pas en question le fait que nous ayons choisi. Mais la foi dit que ce choix, l'Écriture dit que ce choix, il a été précédé par le choix de Dieu. Ce n'est pas vous, dira Jésus à ses disciples, qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et l'apôtre Paul va dire que c'est Dieu qui crée aux Philippiens. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est ce que Pélage n'avait pas compris au 4e, 5e siècle. Pélage était ce théologien qui voulait absolument se démarquer du pessimisme de ce qu'on appelait les manichéens qui étaient tombés, voilà, je parle un peu de théologie, dans le dualisme, en donnant une substance même au péché. Il y avait le bien, il y avait le mal, et les deux étaient comme le yin et le yang. Et le yen, c'est ça, le yin et le yang? Yin-yang, vous choisissez. Et pour se démarquer de là, il a voulu en quelque sorte réhabiliter un peu la dignité humaine et dire finalement que l'homme était capable de Dieu et était capable naturellement de Dieu. Pélage a rejeté la doctrine du péché originel, c'est-à-dire cette conviction que en Adam, nous naissons pécheurs. Ce n'est pas juste une contagion. C'est dans la nature déchue, il a rejeté ça. Et il a fini par établir que l'homme peut librement choisir Dieu ou pas, et que ce choix était une conséquence de son arbitrage, et que quand nous péchions simplement par imitation, pas par nature. Ça a été pointé par l'Église d'alors comme une hérésie, et ça a été condamné au 4e siècle. Et nous avons le risque de devenir à notre insu des pélagiens, ou des semi-pélagiens, c'est-à-dire finalement de surinvestir notre foi, notre engagement. Et c'est là que Spurgeon a eu cette magnifique image en disant qu'une chaîne ne peut pas être plus forte que le plus faible de ses maillons. Ça cassera toujours sur le plus faible maillon. Si je fais reposer l'assurance de mon salut sur le fait que j'ai cru, j'ai dit oui Seigneur, alors que se passera-t-il? quand je serai assailli par le doute, quand je ne serai même plus où j'en suis. Et c'est là parfois qu'en tant que chrétien, on tombe dans une sorte de dépression spirituelle. On s'est tellement appuyé sur nos propres forces et insidieusement, on n'a pas vu qu'on ne construisait plus sur la grâce totale, mais on construisait sur notre foi comme si on faisait de la musculation spirituelle. Et parfois, les épreuves de la vie viennent dégonfler cette musculation spirituelle pour que nous puissions recouvrir l'essentiel. J'ai été percuté en 2014 par une épreuve douloureuse. Un frère mort brutalement à 40 ans de noyade à Berlin. La veille, tout allait bien. Et ce deuil a été terrible d'abord pour ma mère qui était avec nous, ensuite pour sa compagne, leur fille qui avait alors 6 mois, et pour moi aussi. Et pendant presque 3 années, ma vie de prière s'est sclérosée. Je ne savais plus prier. Je n'avais plus les mots de la prière. En tout cas, plus les mots habituels, plus le flot de la prière. Je partage cette expérience non pas pour me mettre en exemple, mais pour dire à ceux qui traversent peut-être ça, que ça arrive. Et là, j'ai découvert ce que moi j'ai appelé mon huile essentielle de la prière. C'était un cantique dont le refrain revenait. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. C'est tout ce que je pus dire au Seigneur pendant presque 3 ans. C'est long, 3 ans. Mais je ne pouvais pas dire plus. Mais j'avais la conviction qu'il était là au cœur de ma vie et de nos vies en tant que famille et que c'est lui seul qui pouvait nous faire vivre. Oui, la foi, notre foi doit dépendre non pas de nos propres forces, mais de la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, et c'est par là que je voudrais terminer, reçue correctement par une foi comprise ainsi, ne peut pas nous laisser oisifs, ne peut pas nous laisser stériles. La foi ne marche pas seule. Le sola fide s'accompagne, comme disait Calvin, d'un fruit des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. D'abord, l'apôtre Paul nous enseigne que ce n'est pas parce que la grâce de Dieu a surabondé que nous pouvons continuer notre vie comme par le passé. Dans Romains chapitre 6, je nous invite à relire. Quoi donc ? Continuerons-nous de pécher ? De nous embourber ? Parce que la laverie est toujours ouverte ? Il dit non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas parce que la laverie est ouverte qu'on a la machine à laver, qu'on se salit volontairement. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes enfants. Excusez-moi, vous l'avez compris bien sûr, je vous infantilise aucunement. Non, il dit non du tout. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans la piété, à marcher en nouveauté de vie. C'est un autre sujet que d'autres développeront ici dans la série aux Éphésiens. La grâce de Dieu n'est pas comme Dietrich Bonhoeffer, et dans les temps que nous traversons avec l'événement, j'ai voulu qu'on se souvienne du combat de Dietrich Bonhoeffer. Je vois, j'ai un livre là, mais c'est un gros pavé. Il a écrit un livre autrefois, il appelait « Le prix de la grâce ». Et il dit « La grâce, bon marché, celle que peut-être à notre insu, celle qui nous fait le plus vibrer, peut-être que vous sortirez agacé de cette prédication en disant « mais il m'a culpabilisé » ou je ne sais pas quoi. La grâce bon marché, c'est la grâce qui fait abstraction de la croix. C'est-à-dire que c'est la grâce qui bondit sur le dimanche de Pâques, le matin, la résurrection, et qui est triomphaliste et qui échappe au vendredi saint. La grâce à bon marché, c'est la grâce qui n'a pas de prix, c'est la grâce au rabais, nous dit Dietrich Bonhoeffer. Ce n'est pas de cette grâce dont j'ai voulu parler ce matin. La grâce correctement comprise nous engage dans des combats, et parfois des combats douloureux. Et quand Dietrich Bonhoeffer a écrit « Le prix de la grâce », il voulait dire à tous les jeunes pasteurs de l'église luthérienne, alors que le régime nazi était en train de noyauter l'église luthérienne, de paralyser, de pervertir, de travestir l'église luthérienne, Dietrich Bonhoeffer dit « La grâce a un prix. Le Christ a payé ce prix. Et il y a aussi une grâce de la souffrance pour le Christ. Nous devons prendre position. » Il dit, ce qui se joue, ce n'est pas de savoir s'il faut continuer de louer Dieu avec des Juifs. Il s'agit que les pasteurs disent clairement que l'église de Jésus est là où Juifs et Allemands se réunissent ensemble pour prier. Waouh ! Je suis convaincu qu'il y a des frères et sœurs qui prient et pour dire que l'Église du Christ est là-haut, au pied de la croix, juif et palestinien, venu à Christ, s'assemble pour prier. Je suis convaincu que là est un chemin, certes étroit, mais le chemin de la prière pour nous dans ce monde troublé. La grâce de Dieu nous engage. Elle nous engage à accomplir, littéralement, à marcher dans les œuvres bonnes. Alors ces œuvres sont dites bonnes par opposition aux œuvres mauvaises. Plus haut, l'apôtre Paul a parlé des œuvres de la chair. Les œuvres mauvaises sont les œuvres qui sont complètement tournées vers la seule satisfaction de soi. Ou alors tournées vers le mal, vers les projets diaboliques. Et le nazisme en a été un. Elles sont dites bonnes parce que pour nous chrétiens, elles sont inspirées de Dieu. Elles sont suscitées par l'Esprit de Dieu. Et alors, ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu, comme je crois que nous le sommes, si nous sommes unis au Christ, sont appelés à marcher dans les œuvres bonnes, à faire le bien pour tous les hommes. C'est ce que Paul dira aux Galates. Faites le bien pour tous les hommes. Ces œuvres sont aussi dites préparées d'avance par le Seigneur. Nous n'avons pas à constamment essayer d'inventer le nouveau truc, trouver la dernière chose qu'on peut faire pour que l'Église résonne dans la cité. Nous avons tout simplement à continuer de faire ce que le Christ a commencé de faire. Dans Matthieu 25, il y a une liste non exhaustive. J'étais malade et vous êtes venus me voir. Oui, quand je visite mes frères et sœurs, je sais que je ne m'aimais pas après les pas de Jésus-Christ. J'étais en prison et vous ne m'avez pas abandonné. J'étais nu et vous m'avez habillé. C'est de ça que Jacques, par ailleurs, va parler. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi à travers les œuvres. Non pas des œuvres pour être sauvé, mais des œuvres comme conséquence de notre salut. Parce que Dieu nous a sauvés, parce que Dieu nous a dépréoccupés de nous-mêmes, nous pouvons nous préoccuper de ce qu'il a sur son cœur. Et ce qu'il a sur son cœur, c'est que sa grâce agisse par nous. Elle a agi en nous et maintenant il veut qu'elle agisse par nous, afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas d'opposition entre la foi et les œuvres bonnes, puisque c'est Dieu qui les a préparées d'avance. À nous de les discerner et de nous y inscrire. Luther n'aimait pas beaucoup l'épître de Jacques qu'il qualifiait de l'épître de paille, mais je trouve que c'est une épître qui nous donne du grain à moudre. Et on peut faire du bon pain avec. En conclusion, juste rappeler trois choses. Nous sommes sauvés, oui. Tout est grâce, c'est ma conviction. Et tout est par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et Paul nous l'a dit au chapitre 1er, verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Autrement dit, plus je comprends la grâce de Dieu, plus j'abonde en action de grâce. Amen. Plus je comprends ce que Dieu a fait pour moi, plus la gratitude grandit en moi et les actions de grâce se développent. Soyons cette communauté de la grâce qui grandit en action de grâce. Laissez Dieu agir en nous d'abord. Souvenez ce que j'ai dit au culte d'installation. Il ne s'agit pas tant d'agir que de se laisser agir. Oui, c'est dans la mesure où la grâce de Dieu transforme de plus en plus nos vies, accueillies par la foi, que nous aussi, nous deviendrons des canaux de bénédiction pour d'autres. Laissez Dieu agir en nous davantage et laissez Dieu agir par nous en accomplissant ses œuvres bonnes qu'il a préparé d'avance. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ta grâce. Que ton Esprit Saint vienne dynamiser ta parole en nous. Que ton Esprit Saint vienne illuminer, comme cela a été partagé dans la louange, les yeux de notre cœur pour que nous contemplions cette grâce merveilleuse, ce joyau qui vaut tous les diadèmes du monde et infiniment plus. Seigneur, viens continuer d'agir en nos cœurs par ton esprit et agis aussi par nous pour une plus grande bénédiction de notre ville et des nations. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. On voudrait